L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère pour de vrai, avec de vrais gens, des vous et des moi, comme les citoyennes et les citoyens du climat de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime que vous commencez à connaître, puisque chaque trimestre, eh bien, elles et ils viennent dans le LEM pour que leur mission de porte-parole et d'ambassadeurs et d'ambassadrices prenne forme radio. Les précédentes émissions sont sur le site internet de Transistor, vous pouvez les réécouter. Et on n'a pas encore abordé le logement. Pas vraiment, en tout cas. C'est d'ailleurs une question épineuse sur notre territoire. Plus on se rapproche de la côte, plus il est difficile de se loger. Parfois, l'une des solutions, c'est l'autoconstruction, construire soi-même sa maison. Ça existe. Si, si. Dans les années 1950, il y avait le mouvement des castors, un mouvement coopératif au sein duquel les lotissements entiers se construisaient à plusieurs. Alors de nos jours, les castors sont surtout des groupements d'achat de matériaux, les projets sont plus individuels, mais le mouvement des castors existe toujours. L'autoconstruction a aussi pris d'autres chemins qu'on va explorer avec nos invités du jour. On parlera aussi auto-rénovation. Il y a Céline Marzin, il y a Juliette Cariou, il y a Hervé Gumez, ils sont tous les trois des Telgruc. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Tous les trois citoyens du climat aussi. Mais ils n'ont pas tous autoconstruit. Il y en a une qui a autoconstruit, c'est Céline. On va parler des deux, hein, autoconstruction, autorénovation, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire autoconstruire, autorénover ? Céline ?
Alors, autoconstruire, ça veut dire qu'une personne décide pour, dans mon cas, c'était une autoconstruction, donc neuve, de construire sa maison en participant aux travaux. Et pour mon cas, j'ai engagé un artisan charpentier.
Quand même, ouais.
Quand même, et ça s'est fait en chantier participatif. Oui. C'est-à-dire que j'engage un artisan, et donc on n'est pas en concurrence avec des artisans professionnels, puisqu'on les engage quand même. Et ils acceptent aussi, dans ce cas, de montrer les gestes. Donc c'est un apprentissage pour des personnes qui souhaitent participer au chantier, en vue derrière aussi de faire eux-mêmes une autoconstruction ou une auto-rénovation.
Et là, ce n'était pas n'importe quelle construction de maison. Hein. On va rappeler quand même quel type de maison c'était.
Alors, il s'agit d'un bâtiment construit en paille porteuse, ce qu'on appelle en paille porteuse. La paille porteuse peut se faire avec des petites bottes ou des grosses bottes de 450 kg. Là, c'est beaucoup de machines qui soulèvent les bottes. Là, en l'occurrence, pour la mienne, c'était de la petite botte qui font autour de 20 kg chacune.
Qui servent de briques, en fait.
Qui servent de briques, effectivement, de grandes briques. Et qui sont empilées les unes sur les autres. Et donc, ce sont ces petites bottes de paille qui porte par la suite la charpente et la toiture ardoise double pente pour mon cas. Ces bottes, elles sont transpercées de petits bouts de bois, pour qu'elles se tiennent.
Mmh. Pour pas qu'elles se décalent, en fait. Quoi,
c'est ça, exactement.
Mmh. Et il n'y a pas vraiment de ciment entre elles, en fait, si ?
Il n'y a pas de ciment entre elles. Ce qu'il y a, par contre, c'est un combo, en fait. Pour ce qui me concerne, c'était des bottes de paille et des enduitaires. Donc il y a des enduitaires de chaque côté, en intérieur, sur 3 cm d'épaisseur. Et en extérieur, en plus de ces 3 cm d'épaisseur, il y a un enduit de finition en chaux sable qui permet de fermer en fait, que la pluie ne rentre pas dans les murs.
Il y a quand même un peu d'étanchéité, c'est ça.
Enfin, oui. Fait des murs, ce qu'on appelle perspirants. Donc toute l'humidité à l'intérieur qui est émise par nos corps quand on a des activités humaines, est poussé vers l'extérieur et aujourd'hui on ne sait pas faire mieux en fait en termes de performance d'isolation, y compris phonique d'ailleurs et pas seulement thermique, sur le combo paille porteuse et terre.
Mais c'est parce que c'était une technique de construction très spécifique, de toute façon, enfin, l'autoconstruction s'imposait un peu, il n'y a pas vraiment d'artisans qui fassent toute la paille porteuse.
Alors oui, quand mon projet a été conçu il y a plus de 8 ans maintenant, la paille porteuse ne se faisait qu'en autoconstruction. Il n'y avait pas d'entreprise de professionnels qui le faisait. Aujourd'hui, en France, la France est un pays à la pointe de la construction en paille, on ne le sait pas forcément.
Ah ouais, alors ?
Mais avec l'Allemagne, avec la Suisse, l'Angleterre aussi, en tout cas pour l'Europe, la construction en paille existe depuis 150 ans. Ça a démarré au Nebraska, aux États-Unis. Et en France, les plus vieilles constructions en paille ont un peu plus de 120 ans, 130 ans. Il y en a une à Montargis, qui est connue depuis assez longtemps, qui a d'ailleurs été, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais le siège du réseau français de la construction paille en France. Et on en a découvert une plus récemment, ces dernières années, à Lille, de la même période que celle de Montargis.
Ah
et
oui.
En fait, ce que ça peut paraître...
Elles tiennent toujours, ces maisons.
Elles tiennent toujours parce que l'enduiteur, quand il durcit... il devient dur comme de la pierre, en fait.
Mais bon, c'est un ciment.
Il n'y a pas de problème
vraiment,
de rongeur et ça fait du poids. Ma maison, elle a subi les 212 km/h de la tempête Ciaran il y a un an, elle n'a pas bougé.
Oui, puis elle a une charpente qui est tout à fait normale, enfin, c'est ça.
Une charpente classique.
Qu'elle supporte très bien. Quoi.
Qu'elle supporte très bien. Juste le solivage fait 6 tonnes. Et ah ouais. Par-dessus, il y a encore toute la charpente et les ardoises, oui.
Et il n'y a pas de bottes de paille aussi pour isoler la charpente, non ?
Alors oui.
Si.
En fait, dans ce bâtiment, il y a 4 techniques de construction paille différentes. Il y a la paille porteuse, donc avec les murs d'enceinte. Ensuite, il y a de l'ossature bois, remplissage paille sur les pignons. Et la toiture est aussi remplie de bottes de paille, mais on l'a fait par l'intérieur. Parce qu'en fait, pour le charpentier, c'était compliqué sur le territoire où on est, de se dire, je vais faire des caissons classiquement, et on mettait les bottes de paille par l'extérieur. Et du coup, moi, derrière, j'ai dû trouver une solution, et on a été 2 en France. Il y a eu un autre projet au Pays Basque en même temps, où on a décidé de le faire quand même et de mettre les bottes de paille par l'intérieur. Et donc il y a 600 bottes de paille dans la toiture aussi.
Bon, on va revenir sur le chantier, comment ça s'organise et tout ça, parce que voilà, c'est participatif. Hervé, qu'est-ce que ça peut être d'autre, l'autoconstruction, sinon ?
Alors, on voit bien avec ce que Céline vient de nous raconter, le but du jeu, finalement, c'est de prendre la main sur ses choix. Et sur son habitat. Donc, en plus qu'autoconstruire ou auto-rénover, moi j'aime bien dire auto-définir. Parce que
oui, on est chef de projet, voilà, enfin chef de chantier.
On est chef de chantier et on prend le temps finalement d'analyser quel est notre besoin, qu'est-ce que je veux finalement. Et ça, c'est principal dans l'autoconstruction, c'est de reprendre la main sur là où on veut habiter.
Oui, on n'est pas obligé d'être artisan, on peut être juste le chef de chantier, coordonner les corps de métier, c'est ça, ouais, Céline ?
En fait, c'est surtout que la plupart du temps, en autoconstruction, il y a un choix de matériaux biosourcés. Et
aussi.
Jusqu'à il y a assez récemment, il y a quelques années, il y a 10 ans, quand on parlait de matériaux biosourcés, il n'y avait aucune entreprise professionnelle qui vous proposait forcément des matériaux biosourcés.
Donc c'est la paille, c'est quoi le bois ?
C'est la paille, c'est la laine de bois, la laine de chanvre, c'est la terre.
Oui, la terre, bien sûr. On a d'ailleurs fait une émission sur les terres crues, exactement, les briques en terre crue.
Ouais. Et ça, c'est des matériaux qui ont l'avantage d'être très très performants, en termes thermiques, isolation phonique, et aussi des matériaux qu'on peut manipuler sans qu'il y ait de la pollution chimique.
Et sinon aussi, on peut auto-rénover, Juliette. Donc vous, comment c'est venu cette idée d'auto-rénover ?
C'est venu parce que je suis tombée sous le charme d'un petit bout de ferme, un petit bâtiment en pierre comme il y en a plein en Bretagne, dans le Finistère. Et puis, c'était pas du tout un projet à la base, mais de vie. Mais en fait, c'est sous le charme de cette petite maison que je me suis passionnée par le sujet et que. J'ai décidé de le rénover en m'impliquant. Comme disait Hervé, l'auto-rénovation, pour moi, c'est surtout le fait de s'impliquer pleinement dans les décisions pour l'avenir du bâti et du coup sa future maison. Et ça ne veut pas dire tout faire de A à Z tout seul. On peut demander évidemment de l'aide à des professionnels parce qu'on ne peut pas être expert en tout.
Vous n'étiez pas du bâtiment, par exemple.
Non. Non, mais du coup, c'est aussi l'occasion de, d'apprendre beaucoup, de se former, de potasser, de lire plein de choses, de se renseigner pour comprendre exactement quelles vont avoir, parce qu'on se rend compte qu'il y a des tonnes de décisions à prendre.
Il y avait beaucoup à faire dans votre cas, enfin, c'était quoi, juste une ruine avec quatre murs?
C'était une maison en pierre qui était encore habitable, mais elle avait été rénovée dans les années 70 et il y a pas mal de choix techniques qui avaient été faits à cette époque-là qui en fait n'étaient pas forcément des très bonnes idées, du type enduire tous les murs en pierre avec du ciment, etc.
Ne respirait plus.
Voilà. Et du coup, bah, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'était pas des bonnes idées. Et donc, au final, j'ai tout enlevé. J'ai gardé que les murs en pierre et la charpente qui était en bon état. Et puis je suis repartie de zéro et maintenant je reconstruis, enfin je rénove petit à petit.
Qu'est-ce que vous avez fait toute seule? À part lire des documents.
Toute seule, le trait, bon, à part la déconstruction, ça c'est très très dur physiquement, mais bon, il faut pas trop de compétences, faut juste pas casser.
Ouais. Faire attention. Quoi.
Ce qui tient la maison, quoi.
Et ouais. Ne pas tomber.
Mais ne pas tomber, ouais. Et le très très gros chantier qui était assez difficile, c'était j'ai décidé de casser la dalle en ciment et pour refaire une dalle en chaux sable pour qu'elle soit respirante.
Oui,
et
ça perspirante. Existe.
Mmh. Ouais. Et ça, j'ai pas mal hésité parce que c'était un gros chantier, mais c'était assez physique, mais maintenant que c'est fait, je suis bien contente. Et aussi, du coup, ça permet de... L'idéal, c'est de casser les dalles ciment et en plus, en dessous, de faire un hérisson ventilé. Ça veut dire qu'on creuse aussi la terre battue qu'il y a sous la maison, en faisant attention de ne pas attaquer les fondations. Et on met un lit de cailloux avec un drain pour que l'eau circule bien sous la maison et qu'elle stagne pas sous la maison.
Hérisson ventilé, ça s'appelle.
Oui, c'est... Ouais,
formidable. Mais c'est pareil, ça a l'air ancestral comme technique, ça.
Je pense que c'est certainement ancestral, mais en tout cas, c'est aujourd'hui, toutes les associations de rénovation du bâti ancien conseillent vraiment de partir sur cette technique pour avoir la maison qui est, avoir le moins de problèmes d'humidité, avoir une maison bien respirante. Des fois, ça arrive qu'on creuse sous les maisons et que carrément, il y a une source qui passe sous la maison.
Ça arrive, oui, chez nous, oui. C'est vrai. Et en plus, parfois, il arrive qu'il pleuve et tout ça.
Voilà.
Puis ça ruisselle.
Et du coup...
Et vous l'avez fait vous-même, le hérisson, alors?
Oui.
Waouh.
Ouais.
Respect.
Ça fait pas mal de cailloux.
Oui, j'imagine. Et où est-ce que vous avez trouvé les cailloux, en l'occurrence?
Et en grande partie dans le jardin. Bah, tout dans le jardin, en fait. En fait, j'ai aussi fait poser un drain sur la façade sud de la maison. Et à ce moment-là, il y a une entreprise de terrassement qui est venue avec un tractopelle et qui a retiré du coup pas mal de terre. Et c'était de la terre très, très caillouteuse. Et du coup, j'ai récupéré tous les cailloux là-dedans.
Impeccable. Céline, est-ce qu'il y a un hérisson ventilé sous la maison en paille, non?
Alors non, moi, il n'y a pas de hérisson ventilé parce qu'il y a la paille, elle n'aime pas l'eau. Donc, il faut que le bas du mur en paille soit surélevé par rapport à l'arrivée d'eau. Je suis sur un terrain qui est très en pente, dans un trou. Et effectivement, moi, si l'eau vient d'au-dessus... il fallait que la maison soit suffisamment surélevée.
C'est un peu sur pilotis alors en fait, c'est
Non, je suis sur des murs d'enceinte qui sont des longues grines en fait, qui sont assez hautes, qui font 90 cm de hauteur.
Donc c'est aussi un vide parce sanitaire que... en fait quoi.
Oui, c'est un vide qui est rempli d'isolant pour le coup.
Ah quand même.
Parce que oui, je suis sur une terre humide, je suis sur une zone qui est assez humide. Et il fallait que je sois surélevée par rapport au niveau... la maison, en plus, c'est sur la partie la plus pentue du terrain. Et donc, il fallait que ce soit assez surélevé. Et j'ai isolé l'intérieur avec de la pouzzolane.
La pouzzolane, c'est, ouais. C'est du...
C'est une pierre volcanique, ouais, qui est très légère, mmh. qu'on utilise aussi pour faire des phytoépurations. Mmh. Et voilà, et c'est vrai que le fait d'auto-construire, d'auto-rénover, comme on l'entend aussi avec Juliette, on apprend plein de choses. Moi non plus, j'étais pas du bâtiment auparavant, et on apprend plein de choses. Et ça, c'est assez intéressant, et ça donne aussi une incapacitation. Moi, l'effet waouh d'avoir construit ce bâtiment ou d'avoir été bénévole avant aussi pendant une quinzaine de chantiers.
C'est mieux de faire des chantiers aussi en stagiaire, quoi.
Et j'ai fait une formation qui s'appelle la Propa. travail qui dure une semaine, mais après, clairement, moi, mon formateur en Charente, il m'a dit, c'est pas parce que t'as fait une semaine à regarder comment non, on monte un mur en paille, quelles sont les propriétés de la paille. Bon, elle aime pas trop le métal trop près, mais t'es pas capable de construire un bâtiment. Donc, je suis partie en faire un compagnonnage que j'ai choisi sur des chantiers. Où il y avait à chaque fois des professionnels, parce qu'il y a des chantiers participatifs où il n'y a pas de professionnels, et pour voir les gestes. Donc je suis partie faire un mois de charpente à Grenoble, j'ai participé à 3 constructions de maisons en paille porteuse. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, il y en a un petit peu plus maintenant, mais toujours pas beaucoup. Faut savoir que les constructions en paille représentent moins de 1% de toutes les constructions qui sont faites en France, et la paille porteuse c'est moins de 3%. Donc on est vraiment très peu nombreux. Et sur ces chantiers, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'encapacitation, comme Juliette ou comme moi ou comme d'autres personnes que j'ai pu croiser. Ça donne une confiance en soi. Moi, j'avais Je ne suis pas forcément quelqu'un qui avait beaucoup confiance en elle, et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. C'est aussi un milieu qui est dur, hein, ça reste un milieu de la construction, mais où j'ai pu croiser aussi beaucoup de femmes. Je ne sais pas si dans le milieu de la construction, c'est quelque chose de plus général qui arrive.
Ça vient.
Ouais. Et il y a beaucoup d'entraide, et il y a aussi l'intelligence collective, notamment en construction paille. On se trouve sur le chantier, et d'avoir réglé beaucoup de sujets. Et en fait, c'est vraiment le fait d'être tous ensemble, arriver à trouver solution. On est des profils très différents avec des...
Combien de personnes il a fallu là pour cette maison? En tout, quoi.
En tout, j'ai dû accueillir 160 personnes sur 3 ans. Alors, certains sont revenus. J'ai des gens qui ont fait tout le chantier. J'ai des gens qui sont venus pour tout le chantier, qui revenaient très régulièrement.
Oui, parce que c'était pas 3 ans en continu. Enfin, non, c'était de temps en temps, quoi.
Alors, l'été, construction paille est très saisonnière. Ouais. Donc, on sort les bottes de paille au printemps, et il faut qu'elles soient mises en œuvre avec leur revêtement par-dessus avant l'automne. Surtout si c'est des enduiteurs, parce qu'il faut laisser le temps de sécher un peu quand même. Donc c'est surtout des chantiers de printemps-été, en tout cas pour la mise en œuvre des bottes de paille. Et donc c'était des chantiers qui duraient 5 jours, temps de la semaine.
Il faut nourrir les gens, tout ça.
Il faut nourrir les gens. Le chantier participatif, en tant que porteur de projet, c'est quelque chose d'assez lourd à porter. Il y a l'organisation du chantier, mais il y a la côté où on les accueille. Et on fait à manger, il faut tout prévoir. Et c'est vrai que moi, après 3 ans, j'ai fini en burn-out. Hein. C'est
quand même,
voilà, chantier participatif en tant que porteur de projet. Ouais, oui. Et d'ailleurs, je suis retournée après, je voulais redevenir bénévole sur des chantiers pour me réconcilier avec le chantier. Je suis redevenue bénévole sur la résidence des artistes à Châteaulin, au Rhône-Arpins, où j'ai participé au chantier de chaux-chanvre en intérieur et chaux-sable à l'extérieur. Et c'était drôle parce que j'ai retrouvé le maçon qui avait fait les fondations chez moi.
On connaît bien, d'ailleurs.
Jean-François, qui a Telgruc, voilà. et c'était bien. Et j'avais l'impression d'être en vacances, en fait, de plus...
d'être
juste là et de faire... qu'on me dise, faut que tu sois là et que tu fasses ça. C'était génial, et ne plus avoir cette charge mentale. Et voilà. Et oui, l'autoconstruction et l'autorénovation, c'est souvent ou avec des copains ou en chantier participatif comme ça.
Juliette,
c'est vraiment l'intelligence collective aussi qui fonctionne à bloc.
Juliette, il y avait des gens avec vous, ou toute seule ou...
Oui, j'ai dû faire appel à de l'aide. Pour l'instant, j'ai surtout fait avec mes connaissances, mes copains, la famille. J'ai pas encore fait appel à... organiser un vrai chantier participatif où on ouvre la participation à des gens autres.
Extérieurs,
ouais. Mais je vais bientôt, d'ici 2-3 mois, faire mes enduits chaux-chanvre. Et du coup, là, j'ai pas le choix. Il faut que je demande de l'aide, parce que c'est beaucoup de travail et il faut aller assez vite.
Enfin, c'est ça,
c'est
faut
sur
être plusieurs
quelques
parce
jours.
Faut, ouais, ouais. Sinon, on ne peut pas se permettre de faire du chaux-chanvre.
Et donc voilà, ce sera le premier chantier participatif que je vais devoir organiser. Donc, je suis un peu stressée parce que c'est ça, il y a un petit peu de charge mentale.
Ça va bien se passer.
Et puis oui, comme vous disiez, il faut aussi nourrir tout le monde, etc. etc. Donc il n'y a pas que le chantier à penser. Donc voilà, ça va être le crash test.
Hervé, une expérience des chantiers participatifs ? Hervé, non, il participe tout le temps à tous les chantiers.
Non, non, moi, j'ai pas d'expérience de chantier participatif particulière. Mais je rebondis un peu sur ce que Céline disait, qui est assez étonnant. Il y a beaucoup de femmes qu'elle a croisées lors des chantiers participatifs. Mmh. Est-ce que c'est pas un moyen de reconstituer un cocon d'habitat qui est féminin ou un cocon
familial. Le fait de faire participer.
Oui, le fait de le faire participer et de construire soi-même son habitat.
Oui.
Voilà. Après, on voit bien que c'est faire construire une maison, c'est une aventure, et le faire en chantier participatif, c'est une aventure humaine en plus.
Juliette, ouais.
Ah, on dit aussi que la conscience écologique, des fois, elle est un peu plus forte chez les femmes.
Mais voilà, parce qu'en fait, j'ai l'impression que derrière l'autoconstruction et l'autorénovation, il y a vraiment aussi un enjeu d'écologie, hein, c'est-à-dire choisir ses matériaux, ne pas faire trop grand, etc. Enfin...
Il y a le choix des matériaux donc, qui sont biosourcés, qui derrière sont performants. Le bâtiment que j'ai construit, il n'a pas besoin de système de chauffage à l'intérieur. Le chauffage, c'est la capacité des murs à accumuler les calories. Et ça, c'est assez incroyable. C'est aussi la sobriété, en fait, dans l'usage des matériaux, qui ne la reste pas trop en fin de chantier. Et c'est aussi la possibilité d'utiliser du seconde main. Mmh. Voilà.
Je sens que Céline a une communication à faire.
Oui, mais je crois qu'on en avait déjà parlé ici et t'en as déjà parlé. Ouais. On est une petite quinzaine depuis 2 ans à un collectif qui a monté une association qui s'appelle La Récup du côté d'Anvec, et pour la récupération de matériaux de seconde main, soit dans le cadre de démolition, soit dans le cadre de fin de chantier pour le bâti. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu où le stocker, où conditionner ces matériaux pour pouvoir les revendre à un prix beaucoup moins cher que le neuf. Et c'est dans le cadre aussi de préserver ces ressources sur la planète. On arrive à un moment où effectivement, ça va devenir compliqué, notamment pour le sable. Mais pas que. Et du coup, ça, et on aura aussi des machines, et on va faire des ateliers et des chantiers participatifs, notamment pour le local en question.
Et puis ça peut être des chantiers de déconstruction. Enfin, après, l'association sera amenée à aider aussi à la déconstruction pour récupération.
Oui.
Aussi.
Oui, tout à fait. On l'a déjà fait. On a déjà participé à des chantiers de démolition sur le département. Et on a déjà quelques matériaux, et effectivement après c'est aussi de transmettre en fait des savoirs, parce que pas mal des personnes qui participent à cette association sont des artisans professionnels aussi.
Mmh. Oui, quand même.
Charpentiers, couvreurs.
Juliette, est-ce que vous avez récupéré des matériaux pour votre rénovation, ou vous y pensez éventuellement à part les cailloux du jardin.
Par exemple.
J'ai récupéré la terre du jardin.
Bah oui, ouais. Évidemment.
Bah oui, du coup, comme je vous disais, j'ai tout démoli, mais ça m'embêtait de jeter. Bah, ça fait énormément de déchets.
Ah oui.
Et bon, il y a des choses que... qui sont... par exemple, je voulais évidemment pas réutiliser le polystyrène et tout, mais j'ai essayé de garder le maximum. J'ai déclouté tout un parquet à l'étage, mais je l'ai gardé soigneusement et je compte bien le réutiliser. J'ai jeté le moins possible parce que, en fait, il y avait plein de choses que c'était trop dommage de jeter. Et puis, c'est vrai que quand on se rend compte des volumes de déchets, ça fait un peu mal au cœur quand même. Même si c'est pas forcément des matériaux biosourcés, mais ils sont là, ils sont existants et ils vont aller à la poubelle. Donc, s'ils peuvent resservir à quelque chose.
Oui, ils vous ont pas forcément servi à vous, mais. Vous les avez donnés, comment vous avez fait ?
Non, j'ai surtout essayé de moi réfléchir comment je pouvais les réutiliser dans ma rénovation, quoi.
Pour l'instant, vous avez une quincaillerie d'occasion dans le garage.
Je stocke et quand ce sera le moment, je les remettrai en état et je les remettrai en place dans la maison.
Et ça sera fini quand, votre chantier de rénovation ?
C'est une question qu'il ne faut pas poser.
D'accord, non, mais en fait, c'est ça aussi.
C'est la question qui est compliquée à répondre pour... je sais que moi, mon chantier, pour des raisons personnelles, s'est arrêté là pendant presque 3 ans. Je reprends là, maintenant, demain.
Oui, mais c'est les finitions.
C'est très compliqué. Ça reste, il faut s'y remettre, il faut... Ouais. C'est la question taboue pour les autoconstructeurs.
Oui, mais il faut l'aborder.
Ça me rassure.
Quand est-ce que le chantier se termine? Elle finit par être pesante.
Mais bien sûr. Non,
mais c'est. Mais faut le dire aussi. On a envie que ça se termine, mais j'ai rencontré, dans mon parcours, d'avoir vu, parce que je suis restée en contact avec chez les porteurs de projets, chez qui je suis allée il y a presque 10 ans, et beaucoup. Y a le côté personnel est la partie la plus difficile, par rapport aux matériaux ou autres. Faut savoir qu'il y a des statistiques qui sont là et qui ont été faites sur l'autoconstruction. Quand on est en couple, la séparation, c'est 50% des chantiers. Et quand on n'est pas en couple, c'est du burn-out.
Oui. Donc, il faut le savoir.
Quoi. Oui, c'est, ouais. C'est ça. Il faut être bienveillant envers soi-même quand on construit. Ouais. Et ouais. C'est un vrai engagement. C'est une aventure de vie, en fait.
Oui,
vraiment.
Oui. Bon,
ça change la vie.
Quand on a une maison, de toute façon, on est tout le temps en train de travailler dessus. Donc, j'ai envie de dire.
Et c'est un des avantages de l'autoconstruction et de l'autorénovation dont on n'a pas parlé jusque-là, c'est que derrière, on est capable de faire sa maintenance.
Ouais.
On sait s'il y a des malfaçons ou pas, on sait où elles sont. En général, une entreprise, elle demande le chèque de réservation, puis elle vous dit, vous revenez dans 6 mois, on vous donne les clés. Là, le fait d'auto-construire ou d'auto-rénover, on sait quel matériau on a mis, quelle vis on a mis, à quel endroit. Et si on a une fuite ou quelque chose, on est capable de réparer soi-même et de trouver plus facilement d'où ça peut venir.
Ouais. C'est pas le paradis, mais c'est intéressant. Bon, on arrive à la fin de l'émission déjà. Merci beaucoup. Et on retrouvera, bien sûr, les citoyennes et citoyens du climat dans 3 mois environ. Merci.
Merci.
Merci bien.